Tais-toi, ah, mais moi,
oui, moi, oui.
L'été à sa cour.
Eh,
c'est pas du vent.
Ah,
le magazine de l'environnement sur RFI.
Bonjour, avec ses 339 hectares, le lac Nokwe est le lac le plus productif d'Afrique de l'Ouest. Situé au sud du Bénin, il relie la capitale économique, Cotonou, à la capitale politique, Porto Novo. Réserve de pêche, voie de circulation pour les marchandises, îlots de maraîchage, espace d'attraction touristique, le lac Nokwe est l'un des piliers économiques du pays. Parsemé de nombreuses cités lacustres construites entièrement sur pilotis, dont la plus célèbre est Ganvier. Mais l'écosystème fragile du lac Nokwe est aujourd'hui menacé. Deux ONG béninoises travaillent au quotidien sur le lac pour alerter les populations et les encourager à préserver ce patrimoine unique. Elles sont soutenues par l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Mais tout de suite, nous partons en barque sur le lac Nokwe avec Alice Milo, qui est en compagnie de Maximin Jondo, le directeur de l'ONG BIS, Bénin Environnement and Education Society.
On peut aller ? D'accord, les gilets sont dedans. Les jumelles.
Oui.
Est-ce qu'on va passer par Ganvier ?
Ganvier obligatoire.
Super. Alors là, Ganvier, va pour Ganvier alors. Ici, on est à l'ambassade d'Abomey-Calavi et plus précisément à l'hôtel Asuka, et qui est l'une des portes d'entrée du lac Nokwe. Parce que là, vous pouvez déjà entendre les cris des oiseaux, vous pouvez déjà les imaginer tout autour de nous dans ces forêts de mangroves.
Finalement, on a quitté la grande route principale de Cotonou il y a à peine quelques minutes, et là déjà, on est plongé vraiment dans la nature alors qu'on est à deux pas du centre-ville.
C'est l'un des plus importants plans d'eau du Bénin, et de par son envergure et de par le nombre d'habitants vivant sur ce lac, parce qu'il y a, au dernier recensement, on a dit qu'il y a près de 3 à 4 millions de personnes qui dépendent du lac, y compris ceux qui vivent sur le lac et ceux qui vivent autour du lac. Et c'est ce lac qui fournit près de 50% des ressources halieutiques utilisées par la ville de Cotonou.
C'est le garde-manger du Bénin.
C'est le garde-manger du Bénin. Malheureusement pour nous, la gestion que nous faisons de ce lac, la gestion n'a pas été efficiente depuis un certain temps. Et si nous ne faisons rien actuellement, c'est que demain, on risque d'avoir un lac mort. C'est ce qui a nécessité l'idée d'enclencher ce projet pour pouvoir arriver à conscientiser un peu pour la conservation durable de la ressource. Là, on s'apprête à monter sur une barque motorisée de 22 places qui permet de transporter les visiteurs et aussi permet aux éco-guides et aux scientifiques de faire le monitoring sur le lac pour le suivi de nos activités, pour les sensibilisations, parce que mine de rien, voyager sur l'eau, ça prend du temps, plus que sur la terre ferme.
Alors on y va, on monte ?
On monte.
Et on est parti. Où est-ce qu'on s'est arrêté là?
Ici, nous sommes juste à l'entrée de Ganvier. Et nous sommes ici sur un périmètre d'acadia. Au fait, l'acadia, c'est quoi? C'est une technique de pêche traditionnelle qui permet de piéger le poisson à l'intérieur d'un périmètre donné, entouré de branchages et en bas de filets. Et quels filets? Les filets à mailles réduites, vraiment pour empêcher même les alevins de sortir.
En fait, c'est un immense mur au milieu du lac de branchages.
Exactement, un immense mur de branchages entouré de filets. Donc, c'est un bunker pour empêcher les poissons de sortir. Et là, ils laissent les poissons là-dedans pendant 2 ou 3 ans et reviennent faire la récolte après ce temps. C'est ça qui a détruit toute la mangrove le long des berges du lac. Parce qu'ils ont coupé la mangrove pour faire l'acadia.
Pour faire les pièges.
Pour les faire les pièges. Alors que ces mangroves aidaient à protéger la berge contre les inondations, contre l'envasement du lac, contre le comblement évidemment, et aussi servaient de frayeur aux poissons. C'est sous ces mangroves que les poissons pondaient les œufs.
C'est leur nid.
C'est leur nid, au fait. Et les petits poissons, comme on le dit, restent là à l'abri des racines pour grandir, avoir un peu de force avant d'aller au large. Mais voilà qu'il n'y a plus de maternité pour les poissons. S'il n'y a plus de maternité, les poissons ne pondent plus les œufs. Maintenant qu'ils ne trouvent plus du bois, ils se sont attaqués maintenant aux palmiers. Comme vous voyez maintenant, c'est des feuilles de palmiers.
Des branches de palmiers, en fait, qu'ils ont plantées au cœur du lac et qui sont assez hautes. Hein. Finalement, ça fait vraiment un mur, on ne voit même pas de l'autre côté. Hein.
Exactement.
Il y a tellement d'acadia sur le lac, c'est-à-dire qu'il y a tellement de pièges à feuillage sur le lac. En fait, le lac, il n'y a quasiment pas de lac. En fait.
Disons qu'il n'y a plus de lac. Il n'y a que ces périmètres d'acadia à vue d'œil, et si un étranger venait ici, il va se demander comment est-ce qu'on arrive à se retrouver dans tout ce dédale de branchages et autres là. Ça encombre pratiquement tout le plan d'eau. Et je vous dis, c'est des propriétés privées. Donc ce que vous voyez ici est une propriété privée. Ça lui appartient.
Mais c'est un droit coutumier, quoi. C'est pas légal.
C'est pas du tout légal. Parce que ce n'est que les plus riches qui continuent de perpétuer l'activité.
Parce qu'ils ont les moyens de payer les branchages.
Ils ont les moyens de se payer les branchages, parce que vous imaginez clôturer 3 ou 4 hectares avec des branchages, avec des filets, ça a un coût. Et si vous voyez, ici, nous sommes sur l'eau, mais souvent, ceux qui font cette pratique-là sont ceux qui vivent dans des maisons cossues sur la terre ferme. Parce qu'après avoir récolté ici, ils vendent leur récolte et ils utilisent l'argent pour construire de grandes maisons, s'offrir des grosses caisses et se mettre à l'abri, quoi. Et ceux qui sont ici continuent de végéter dans la misère.
Parce que du coup, pour les petits pêcheurs, c'est quoi la conséquence?
La conséquence, c'est qu'il n'y a pas de ressources. Il n'y a plus de poissons.
Ils confisquent tout le poisson du lac.
Exactement, ils confisquent tout le poisson. Et pour les petits pêcheurs, il n'y a pas de poissons. Ah ben justement, voilà des pêcheurs qui sont à côté. On va leur faire appel pour qu'ils nous expliquent qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui sur le lac, quelle a été la récolte de leur pêche d'aujourd'hui.
Des pêcheurs qui sont sur des toutes petites pirogues en bois.
Ça, c'est les plus petits pêcheurs pauvres et qui ont vraiment, qui sont en conflit avec les gros pêcheurs.
Bonjour. Vous vous appelez comment?
Avessi Abou.
Comme vous pouvez le voir, et sa récolte du jour, et il dit qu'il est sur l'eau depuis 7 heures du matin. Et regardez ce qu'il a pris. Ça, c'est pratiquement rien comparé à 5 heures de temps passé sur l'eau.
Il y a à peu près, une trentaine de petits poissons.
Et là, vous savez, il dit, on ne trouve plus de poissons dans le lac. Et pour lui, tous les poissons ont migré vers la mer, vers l'océan. Et c'est difficile même pour manger, parce que s'il passe tout ce temps sur l'eau et qu'il a cette récolte, c'est même difficile pour lui de se nourrir. Quand ils étaient avec le parent, ils venaient, même que ça, ils ramassaient les poissons presque à la pelle, il y en avait partout.
C'était il y a
20-30 ans, oui. Et que maintenant, c'est le désastre, quoi. C'est un désastre aussi là-dessus, parce que si je n'ai pas de poissons, je ne pourrais pas vendre pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, et je n'ai même plus d'autres alternatives. Compte tenu de sa condition de vie, il n'a même pas osé envoyer le petit à l'école, et c'est pourquoi vous le voyez là avec lui aujourd'hui, et qu'il passe même tout le temps avec lui, et parce que c'est même difficile pour lui de le nourrir, et que quand il est sur l'eau, il se débrouille pour pouvoir subvenir à ses besoins.
Il a quel âge, lui, le petit garçon qui a endormi au fond de la barque?
C'est son premier né, ça, il a 5 ans. Elle dit oui, ben, il n'a pas le choix, il deviendra tout pêcheur, tout comme lui. Mais le grand danger, c'est que lui ne trouvera plus rien pour pêcher.
Merci, merci beaucoup. Bon courage.
Tu vois, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés même de ramasser les alevins, les tout petits poissons. Comme on le dit, on a un adage qui dit petit poisson deviendra grand. Mais dans le lac Nokwe, petit poisson ne deviendra pas grand.
Donc l'enjeu, il est environnemental, mais il est surtout économique, si je comprends bien.
Oui, parce que ça fait partie de la vision de Bibiz, qui travaille pour la sauvegarde des ressources naturelles pour la sécurité alimentaire. Parce que c'est ça le problème maintenant. C'est pas qu'on leur demande d'écouter, préserver l'environnement pour l'environnement, mais on leur dit, préservons l'environnement ensemble pour que demain, nous puissions toujours continuer à manger.
Mais par exemple, le pêcheur qui a cette parcelle, vous le connaissez, vous lui avez déjà parlé.
Eux-mêmes, ils reconnaissent qu'ils n'ont pas le droit. Même ils vous disent, ok, on ne va plus faire, mais dès que vous tournez le dos, parce que pour eux, ils se disent, d'accord, vous nous dites d'arrêter, mais vous voulez qu'on mange quoi? Mais on leur dit, écoutez, vous, vous avez déjà assez. Il faut que vous réfléchissiez pour la grande majorité. Libérez les poissons, permettez-les de migrer normalement, permettez-les de se reproduire normalement pour que tout le monde puisse continuer à manger au lieu que ce soit vous seul qui mangez aujourd'hui.
Les politiques ferment les yeux sur ces pratiques-là.
Les politiques ferment les yeux parce que tout ça, c'est un vivier d'électeurs. Donc, si vous devenez radical avec eux, ben, ils ne voteront pas pour vous. Ce qui fait que les politiques, ils n'osent pas agir pour dire, écoutez, ça va.
C'est quoi vos solutions?
Et c'est de continuer à faire le lobby auprès des politiques et leur dire, ils n'ont pas le droit de fermer les yeux. Et on le fait. Et nous avons été, ces derniers temps, c'est jusqu'à l'Assemblée nationale pour interpeller le gouvernement, pour lui dire qu'il faut que cette loi soit prise sur la gestion du plan d'eau, soit respectée, parce que c'est un péril sur le futur du lac.
En fait, je suis un agent de la mairie, de l'administration de Souava. Parfois même, ils prennent même les moustiquaires, c'est-à-dire
les vrais moustiquaires,
pour pouvoir se servir pour faire la cueillette, la capture et la prise de poissons. Là, les petits poissons de moins d'un centimètre, même parfois, qui sont ravagés, qui sont pris. Donc les prises, c'est pour aller maintenant capter, pour cueillir des petits poissons moins de 2 cm, ce qui est très très dangereux. D'abord même en matière de quel est le constituant de ces moustiquaires, parce que là c'est des produits chimiques, vont maintenant être utilisés, consommés alors par la population, ce qui n'est pas bon.
Depuis 2005, les moustiquaires sont interdites et vous, vous ne vous contentez pas de dire que c'est interdit, vous allez à la chasse aux moustiquaires.
Et oui, il faut dire que dès 2005, ça a été une grande chasse. Plus de 12 000 moustiquaires déjà retirés sur le lac. 45 ou 50% déjà sont retirés. Voilà. Et là, il fallait seulement être sur le lac les matins de bonne heure pour voir comment on enlève les filets à mailles fines. On ramasse, même la brigade est aussi avec nous, pour aller enlever les moustiquaires.
Comment réagissent les pêcheurs derrière?
Ah là, c'est des affrontements parfois. Parfois, ça tourne au vinaigre, où il y a même des coups. Des coups de perche, des coups de bâton, des coups de bois, de bambou. Parce que là, c'est qu'on est en train de le priver de son investissement. C'est pas simple.
Et vous, quand les pêcheurs vous voient alors sur l'eau, ils vous détestent un peu, non?
Ah oui. Oui. Mais au finish, on arrive toujours à s'entendre. Parce que là, il faut toujours l'amadouer, le faire voir le mauvais côté. Voilà, si tu continues, voilà, toi-même, tu n'auras plus.
Questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Là, vous voyez, c'est juste un îlot de mangrove qui reste là et vous pouvez imaginer que ça couvrait tout ce périmètre. 30 ans en arrière, c'est couvert de palétuviers. Et il y avait la ressource, il y avait le poisson, donc le garde-manger était là. Donc 30 ans en arrière, c'était tout ouvert avec de gros arbres de mangroves. Donc tout autour, c'était peuplé de mangroves, oui. Ça veut dire rempli d'oiseaux.
On s'est approché du bosquet de palétuviers, en fait, en barque, on est vraiment au pied.
Et on peut déjà entendre le cri des oiseaux, et c'est pas seulement le cri du héron bureau, on a le cri de tous les autres oiseaux qui y vivent. Et si on fait attention et qu'on regarde bien dans le sous-bois, on peut avoir la chance de voir se faufiler un des juvéniles. On pourrait entendre « quang, quang, quang ». Là, c'est le cri du héron bureau. « Quang ». Là, il y a le héron noir qui est en train de se poser, il s'est posé. Et c'est un des hérons et habitants du site aussi, le héron noir. On a les aigrettes qui viennent aussi, on a le héron cendré. C'est la maison des oiseaux ici pour nous, et c'est d'où la nécessité pour nous de la conserver, parce que nous craignons qu'avec la disparition de cet habitat, que les oiseaux aussi ne disparaissent avec. Ça tournait par moins de 300 différentes espèces d'oiseaux, mais les derniers recensements diminuent. Chaque année, on trouve de moins d'espèces. D'où la nécessité pour nous de travailler dans l'espoir que demain ils reviendront. Et l'enjeu est grave parce que ces oiseaux ont une interaction directe avec les poissons. Quand les oiseaux sont sur le lac, leur fiente alimente le lac directement, et ce qui donne de la nourriture aux poissons. Dès que les oiseaux disparaissent, les quelques petits poissons qui resteront dans les racines ne trouveront pas à manger. Pas d'oiseaux, pas de poissons. Donc, le lac ne sera pas repeuplé naturellement comme cela se doit. Nous avons planté les palétuviers dans le fond, et c'est la nouvelle technique. On descend directement dans l'eau et on repique la propagule. Pour avoir un adulte, il faut penser minimum 15 ans.
Parce que
c'est très lent, dur, et le drame de l'avoir détruit totalement. Et le reboisement, en fait, ici, est une activité continue. On ne s'arrête pas, et à chaque saison de décrue, nous venons avec les écoliers et nous faisons des activités de plantation. Même les vieux et les aînés des villages viennent pour faire, parce que nous avons une technique de planter contre de la nourriture. Nous les amenons, et c'est une grande fête où tout le village vient. Nous sommes conscients qu'ils n'en ont pas, mais pour les intéresser à la chose, pour avoir participé à cet élan de conservation, à la fin, ils retournent avec de la nourriture. C'est un argument pour les faire venir, et ils savent que ça donne. Donc à chaque campagne, on les trouve nombreux, et c'est une fête. C'est en fait une grande fête. Donc nous espérons que d'ici 15 ans, 20 ans, ce que nous avons mis en terre ensemble avec les populations puisse grandir et permettre aux hérons bureaux de trouver un habitat favorable.
Comment vous pouvez vous assurer que les gens, la nuit, ne viennent pas pour couper les racines?
Et nous avons travaillé avec la mairie qui a pris un arrêté communal interdisant toute coupe de la mangrove et toute chasse d'oiseaux, de cueillettes, d'œufs d'oiseaux et sur le territoire de la commune de Soava. Donc, officiellement, c'est interdit. C'est la communauté elle-même qui nous aide à faire le contrôle, et c'est sur la supervision des éco-guides qui émanent de la communauté. Vous voyez un juvénile de héron bureau qui est en train de partir. Ça, il est très juvénile. C'est rare de les voir sortir de leur abri comme ça, mais peut-être qu'il est en train de nous dire bonjour parce qu'il sait que nous sommes là et que nous travaillons pour sa conservation.
Restez sur RFI, nous vous laissons quelques minutes, le temps pour vous d'écouter le flash d'info et pour nous de reprendre notre voyage en barque sur le lac Nokoué. À tout de suite.